All right, c'est parti. Salut, bon matin. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. On est jeudi, dernier jour de travail pour certains, parce qu'il y en a qui sont en congé demain. Puis je vous ai observé aujourd'hui sur la route, vous êtes moins. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont déjà en congé.
Il y en a qui se sont collés une Judith.
Ouais. T'es-tu une fille qui calcule tes journées de congé de l'année, toi? C'est-à-dire, exemple, tes vacances, t'essaies de les maximiser au maximum. Tu prends des congés, mettons, un congé.
Collé sur des fériés. Je le fais. Moi, mes vacances sont toujours à la même période de l'année depuis toujours, dans le coin de la... avant l'été, parce que je travaille l'été. Uh-huh. Fait qu'ils sont collés sur Fête du Canada puis la Saint-Jean.
Il y en a qui sont hyper stratégiques. Je pense que Max...
Mais c'est pas con, je trouve.
Max Larouche a de l'air hyper stratégique là-dessus.
Ah ouais,
il a de l'air vraiment alerte. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a 6 mois de congé par année. Il est tout le temps parti à Montréal, dans des shows.
Ah, mais lui, c'est la fin de semaine. Ouais. Ben, c'est qu'il prend comme... Max a décidé, au lieu de prendre, puis honnêtement, il fait bien à l'âge qu'il a en ce moment, avec peu de responsabilités, c'est le top, là. Puis, tu sais, il n'est pas attaché, il n'y a pas de conjoint-conjointe, là. Tu sais, moi, j'arrive mes vacances avec mon chum, mettons. Mais Max, ce qu'il fait, c'est qu'au lieu de prendre, mettons, une semaine complète, ben, il prend des une, deux journées ici et là dans l'année, justement, pour aller vivre des trips.
Mais il a de l'air vraiment alerte sur ses congés. On devrait peut-être plus l'être comme ça.
Je pense que oui. Moi, je suis pas bonne pantoute là-dedans, honnêtement, là, mais je maximise effectivement ceux d'avant l'été.
Moi, je me suis tout le temps arrimé sur les horaires des autres. Depuis que j'ai des enfants, mais comme tu l'as dit, des fois, on a des trucs qu'on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Ça a pris 30 secondes à faire, puis t'es pogné avec ça toute ta vie.
Mal fait, hein?
mais c'est ça, c'est pas mal tout le temps les 2 semaines de la construction, puis des fois, c'est une semaine de plus.
C'est tout.
L'été.
Fait que t'es avec nous autres l'été, toi.
Puis après ça, ouais. Puis après
t'es le seul qui est avec nous.
Après ça, un petit peu pendant le temps des fêtes, mais c'est tout. Mais je déteste pas ça, travailler l'été.
C'est le fun.
Puis moi, je suis un gars de moto, là. D'ailleurs, je salue les gens qui font de la moto déjà depuis 3 semaines. À chaque fois que je vous vois sur la route, je vous envie. Mais en même temps, je me dis, tabarouette qu'ils doivent avoir les petits bouts durs. C'est l'enfer. J'ai vu énormément de spider, des motos en fin de semaine passée.
Je trouve ça tata ce temps-ci de l'année pour être
honnête. Oui et non. Là. Je veux dire, tu sais, il y a moyen de faire de la moto intelligemment, puis il y a moyen de faire de la moto en cave. Si tu es une personne qui roule de manière sportive à ce temps-ci de l'année, alors que les routes n'ont pas été encore nettoyées, ben c'est extrêmement dangereux pour toi.
Les petites roches.
Extrêmement dangereux pour les autres. Tu sais, les petites roches, nous autres, à ce temps-ci de l'année, si on décide d'embarquer sur notre moto, on est sur l'autoroute, on n'a pas le choix d'avoir un full face. Mm-hmm. Mais moi, je suis un gars qui aime ça, les véhicules, tu sais, les motos un peu plus classiques. Je vais me racheter un Harley dans les prochains jours, prochaines semaines.
Oh, mon Dieu!
Je suis sur Marketplace.
T'es à cet âge-là.
Et j'ai un bol sur la tête. À cet âge-là, j'ai eu ma première moto. C'est pas vrai. Ma première moto, c'était un Hayabusa. Fait que j'ai eu une coupe de bike sport. Puis après
là, tu veux du confort.
Après ça, quand j'ai fini l'école, je m'étais acheté mon premier Harley Davidson 9 chez Prémont, ici.
Tabarnouche!
Ça m'a pris 10 ans le payer, mais j'ai fini par le payer. Et après ça, je suis retombé sur les racers parce que j'avais vendu ce Harley-là. Je suis retombé sur les racers, j'ai dit à mes gars, choisissez une moto pour votre père. Puis là, je l'avais donné quelques modèles. Finalement... Tu sais, quand tu choisis une moto sur Marketplace, il y a d'autres suggestions.
Hein, ben oui.
Fait que c'est l'algorithme, je pense. Puis il y avait comme mis une moto sport. Fait que là, ils disent, papa, j'aimerais ça. Ils ont dit, papa, on aimerait ça que tu aies une moto sport cette année. Fait que là, j'ai acheté une moto sport. Mais là, ça fait 2 ans que je l'ai, puis je suis plus capable.
T'as-tu déjà embarqué tes gars?
Oui, pour je les embarque. Fun, là, je veux mais tu sais, c'est... Ça revient un peu à ce que je te disais tantôt. Tu sais, il y a 2 façons de faire de la moto. Là. La moto pepper comme moi j'en fais, ou de la moto sportive. Mm-hmm. Ce que je vois actuellement, c'est des pepper qui font attention sur la route, qui savent qu'il y a encore énormément de sable, énormément de petites roches.
Ouais.
Donc, c'est super dangereux quand tu prends des virages, exemple, et tout ça, de glisser, parce que c'est pas encore nettoyé. Mais j'ai jamais été cave en moto. Mm. Tu sais, je l'ai été peut-être quand j'avais 16 ans, là, la première fois. Je voulais savoir ce que c'était, 200 km/h, même 300.
Ah, oh, mon Dieu, Yann!
Mais j'ai pas dit... Je voulais savoir ce que c'était. J'ai pas dit que je l'avais essayé.
Ben là, puis, on y entre les lignes. Là, on n'est pas tabochon.
Mais quand t'as à faire ça, il faut que t'ailles un peu plus comme dans le secteur de la Beauce, sur le bord des lignes. Là.
Ouais.
Ouais. Mais ça, c'est pour les gens qui veulent l'essayer.
Peux-tu me rassurer que t'es équipé?
Ça demeure extrêmement dangereux. Mais après ça, une fois que ton trip est passé, tu fais de la moto de papa puis tu es tout à fait heureux.
Ah,
fait
là, j'ai hâte. Créative,
j'ai hâte, il faut que je fasse mon changement d'huile de moto. Je sais pas si ça va être en fin de semaine ou l'autre semaine d'après. Mais ça s'en vient, on se prépare.
Tu vois, j'aimerais ça que mon chum soit un peu plus pépère par moment parce que nous autres, c'est une semi-route, semi-trail qu'on a à la maison. Mm-hmm. C'est pas l'affaire la plus confortable quand
tu
es passager.
Lui, travailler avec ça?
Ben non, il travaille à Trois-Rivières. Là. Ben oui, il pourrait.
Ouais.
Mais mon chum, par exemple, il est plus. Ben il a ce côté-là pépère. Il préfère aller faire les petites commissions ici et là où il va passer par, mettons, la 138. Il prend rarement l'autoroute avec la moto, sauf si besoin est. Là,
ouais.
Pour être très honnête. Là, puis je pense pas que c'est une moto idéale non plus pour faire de l'autoroute. Là. Il tripe plus à aller faire du bois, mettons, avec qu'autre chose. Là.
Ouais. Ben c'est vraiment nice. Moi, c'est rare aussi que je prends. En fait, l'autoroute ne me stimule pas à moto. Là. Ce que j'aime, moi, c'est vraiment les petites routes où il n'y a pas
vue,
trop d'achalandage.
Ouais.
Quand je vais faire un tour, mon tour de pépère le dimanche sur l'île d'Orléans, tu sais, c'est le moment idéal. Là. Je dois faire suer les résidents, je m'en excuse, là. Mais tu sais, il y a certains endroits où c'est 70, je pense, la limite. Je dois rouler à 45-50, là. Tu sais, je me tasse okay. Je me tasse à droite
quand
pour qu'il puisse me
pépère.
Dépasser. Oui, oui, je suis vraiment mon oncle. Pépère, mon oncle.
Ah, oh, j'adore ça!
Dès que je franchis les ponts, là, je m'en vais à l'autre bord, puis après ça, je me prends une petite route qui longe la rivière Chaudière, puis j'adore ça. Je fais 40, 50, 60 minutes là-dessus avant d'arriver à Sainte-Marie, tout est parfait.
On a quelques auditeurs qui sont inquiets là, pour les motocyclistes. Tu sais, il y a David qui nous dit « Je veux pas être le gars qui dit que c'est trop dangereux de nos jours, mais à Saint-Jean, à Port-Joli, dans une sortie station-service aujourd'hui, j'ai vu une moto déchiquetée au milieu de la sortie avec ambulance, police, pompiers. C'est ça, c'est qu'il y a des gens qui sont trop excités de reprendre la route et
ouais.
qui sont tellement.
Tu sais, mais je veux pas faire peur aux piétons, là, mais j'ai déjà vu des piétons se faire rentrer dedans là, parce qu'ils regardaient pas quand ils traversaient l'autre bord de la rue.
Ah oui, mais là, on se comprend. Mais je veux dire, c'est le temps de l'année. Tu sais, dans la semaine, il y a grêlé, il y a plu, il y a annoncé de la neige partout,
ouais.
Il y a encore de la roche.
Ça arrive aux piétons quand il fait beau aussi.
Je comprends, Yann,
faisons
mais il y a
attention.
Des gens qui sont pas prudents. Il y a des
oui.
gens qui ont hâte de sortir. Leur bébelle puis qui sont pas.
Comment t'appelles ça, la sélection
naturelle? Non, je suis pas d'accord avec toi. Fais attention.
Sélection naturelle. Des fois, il y en a qui méritent pas d'avoir une moto, puis malheureusement, ils achètent cette moto-là, puis malheureusement, ils se tuent avec. Surtout les jeunes, ça me tue à chaque fois quand je vois un jeune se planter à moto. Là.
Ouais.
Puis, ou les messieurs qui sont à la retraite, je vois ça, moi, des retraités du gouvernement, 55 ans. Puis ils se disent, hey, là, c'est le temps d'en profiter, j'étais encore jeune, tout ça. Ils achètent un gros véhicule. Je me rappelle pas c'est quoi cette catégorie de moto-là, 418-971-121, mais c'est vraiment des grosses, grosses motos avec des grosses valises. T'as l'impression que c'est gros comme un char. Puis là, ben, toutes les messieurs.
Spider?
Non, non, non. C'est vraiment une moto. Mais
deux
c'est,
roues, là.
Ça se peut-tu Goldwyn? Tape donc ça.
Ça se peut.
Je pense que c'est Goldwyn. Puis je me souviens tout le temps de ce petit monsieur-là qui est... Il devait autour de 70 ans, Audrey, et...
Oui, Goldwyn. Oui, oui, oui.
Il avait 70 ans, puis il était avec une moto flambant neuve. Puis il est arrivé à côté de moi. Il était tout fier d'arriver, puis il était beau à voir, là. T'sais. Il avait l'air d'un pan, là. Ouais, c'est...
Il passe de valise ses côtés, mais il y a du rangement.
Tu me semble que j'ai des Goldwyn en tête.
Mais 88-971-102-1, mais ça ressemble à ce que tu dis, mais ça, c'est les 2025. Là. Ils ont l'air un peu plus aérodynamiques, mettons. Là.
C'est ça. Mais bref, ce monsieur-là, 70 ans, ouais. Il arrive à côté de moi au Tim Hortons dans le secteur de Saint-Lambert. Puis moi, je suis déjà dans le stationnement, puis je le vois arriver, puis je le trouve beau, le bonhomme. Là. 70 ans, le casque neuf, service de télécommunication sur son casque. Tout est beau. La grosse musique.
Goldwing de Honda, qu'on dit.
Goldwing.
C'est vraiment ça.
Bon,
Goldwing
voilà.
de Honda.
Fait, il arrive à côté de moi, il descend de sa moto, puis là, je me dis, mais ça, il va vite un peu pour descendre de sa moto. Il avait oublié de mettre le pied.
Oh
la moto,
non, oh non,
la
non,
moto
non.
cante sur le côté.
Oh!
C'est lui, c'était probablement le rêve de sa vie d'avoir une moto comme ça.
Oh, ça coûte cher.
C'était le rêve de sa vie d'avoir une moto comme ça, puis il l'a canté carré à côté de moi, là. Puis ça devait pas être sa 75e sortie. Ça devait, il devait être dans
voir.
Ses premières sorties. Puis je l'ai aidé à remonter sa moto. Puis c'est lourd, là.
Non, mais souvent, au moins, t'as une assurance d'un début. D'un... Tu sais, moi, c'est pas en moto, mais mon père s'est acheté, il y a un an et demi, peut-être, un nouveau 4 roues. Puis ça faisait longtemps qu'il voulait un nouveau 4 roues. Ils sont déménagés dans le coin de Saint-Raymond. Là, il voulait vraiment se rééquiper. Il avait vendu son vieux il y a une couple d'années déjà. Puis on est allé faire une ride une fin de semaine. Puis on s'est ramassé. Il n'y avait plus dans les jours d'avant. Puis on s'est ramassé dans une trail où il y avait plein de trous au point où tu pouvais appeler ça des mini-lacs. Là. C'était quand même assez profond. Puis il s'est enligné avec fierté en se disant que tout allait bien aller. Puis le 4 roues a neigé.
Oh.
Puis c'était la première sortie qu'il faisait avec sa machine. La déception, Yann, là. La déception de ne pas pouvoir utiliser son 4 roues. C'était la première sortie qu'il faisait. Il s'est ramassé canté dans l'eau, le 4 roues complètement neigé.
Ah.
C'est poche. Puis effectivement, tu travailles pour ça. Ça coûte cher, ces bébelles-là, là.
Ah oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Mais faisons attention. Puis c'est un des plus beaux loisirs, moi, que j'ai dans la vie, c'est de faire de la moto.
Ouais.
Ça me procure un bien-être, là, autant... Sinon, peut-être... Non, je te dirais équivalent que la plongée sous-marine.
Ah oui.
La plongée sous-marine, à mes yeux, à moi, c'est exceptionnel. Là, si un jour, vous avez la chance de faire de la plongée sous-marine là, avec la bonbonne dans le dos, puis vous allez dans le profond, là,
ouais.
Puis là, vous explorez les fonds marins au Canada, plus précisément au Québec. Mm. Vous allez voir à quel point c'est beau, le fond du fleuve Saint-Laurent.
C'est un autre univers.
Dans le secteur des Escoumins, il y a plus de couleurs là, Audrey, qu'il y en a dans le sud. C'est pas des blagues, puis je sais pas pourquoi. Mon chum, Pat Bourgeois, qui a fait des expéditions dans ce secteur-là, m'avait raconté ça, tu sais, il y a de ça quelques années. Il m'avait dit, Yann, va faire un tour dans le coin des Escoumins, tu vas halluciner. Puis moi, j'étais un poisson d'eau chaude, là.
Mm.
Tu sais, je vais faire de la plongée sous-marine dans le sud, puis je capote ma vie.
C'est clair,
j'ai un
en
peu plus de plaisir à faire de la plongée sous-marine au Québec depuis que je suis bien équipé maintenant. Fait que je m'en vais à la mine de Thetford Mines, puis je fais de la plongée là.
T'en fais-tu encore beaucoup?
L'eau est frette. J'en fais à chaque été, mais j'en fais pas autant que je voudrais faire. Mon chum, Christian Saint-Pierre, m'a abandonné. Là. Tu sais, c'est quoi rencontrer une fille? Là?
Bon, mais le message est passé.
Dans le temps, il me traînait à Morrisburg, en Ontario, puis j'en ai fait pendant le temps des fêtes à Morrisburg, en Ontario. Là. Fait que tu embarques dans le fleuve à cette hauteur-là. Pis surtout la première sortie nocturne là, que j'avais faite de ma vie, je vais m'en souvenir. Là. Tu sais, tu arrives, là, tu passes entre deux résidences, il y a un petit ruisseau entre deux résidences, tu descends avec ta bonbonne puis tes palmes dans les mains, puis let's go, tu t'équipes, puis après ça, tu arrives avec ta flashlight, puis tu t'en vas dans le fond.
Hey, je t'écoute, puis ça me fait triper.
Mais tu sais que quand tu vas ressortir l'autre bout, il va faire moins 10, moins 15.
Ouais.
C'est hallucinant.
Tu sais que ma mère était archéologue.
Dans l'eau, t'es confortable.
Ah, mais ça fait partie. J'aimerais tellement ça pouvoir faire mes cours à un moment donné. Tu sais, ça fait partie des choses qui sont pas nécessairement prioritaires dans la vie parce que ça coûte cher, là, comme le permis de moto. Mais c'est vraiment le sentiment de liberté, t'as raison.
C'est
comparable.
Puis je le sais que toi, je te connais pas tant que ça au niveau personnel, mais je sais que toi, ça va vraiment te faire du bien. Parce qu'une fois que tu es dans le fond de l'eau, là, tu te concentres sur tes instruments, savoir tu es à quelle profondeur, puis après ça, sur ta respiration. Une fois que tout est seté, là,
c'est le vide.
C'est la respiration, puis tu as juste à regarder autour de toi, puis de te dire, tabarouette, on est rare à pouvoir voir ce qui se passe en dessous de l'eau. C'est un loisir formidable.
Tu nous fais rêver, ce matin.
Aujourd'hui, on a une super belle émission. On reçoit quelqu'un que j'aime bien, Gab Hardy, qui est le propriétaire du Tonic, qui est maintenant un candidat dans Montmorency-Charlevoix pour le Parti conservateur du Canada. Le petit maudit, on l'avait pas vu passer.
J'avais entendu
des rumeurs sur certaines candidatures possibles pour le Parti conservateur. Je te dirais qu'à 95%, là, on avait déjà les noms qui avaient été pressentis, qui ont été annoncés. Mais Gab Hardy fait partie du 5%. Il
mais
a gardé
en même temps,
ça secret.
Ça m'épate pas. T'sais, Gab Hardy est déjà directeur exécutif du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Chaque fois qu'il nous parle de santé, son but ultime, c'est qu'il y a des choses qui changent au niveau du gouvernement pour pouvoir nous aider à prévenir en santé, ce qui est pas mal la clé hein, avant de se ramasser dans les urgences puis de les engorger. Fait que on l'a pas vu venir, mais quand tu y repenses, c'est logique. Puis aujourd'hui, on y parle, mais on y parle pas en soi de politique ou des conservateurs. On parle plus de la politique et les jeunes, dans la mesure où, Gab Hardy, en partant, est jeune, là. Mais il utilise beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux. Je le vois passer énormément, moi, sur mes plateformes, là. Il va à la rencontre des gens. Il a l'air super impliqué. Il l'a toujours été, là.
Ouais. Moi, je l'ai vu passer quelques fois, là, mais je comprends que t'as de l'air à le voir souvent.
Ben, je suis souvent au Tonic Gym en partant, là.
Ouais.
Fait que oui, je
ton algorithme te le propose pas mal plus que moi.
Ben, je suis sa page, fait qu'en partant, ouais. Oui.
Tu commences à t'intéresser à la politique?
Je m'y intéresse depuis un moment, mais j'ai pas de... Je vais voler le terme à Denis, j'ai pas d'érection nécessairement politique.
T'as pas d'érection!
J'ai pas d'érection. Mais je trouve ça intéressant, parce que moi, au-delà du parti puis des programmes, je pense que de voir quelqu'un qui a envie, dans sa circonscription, d'être très impliqué, d'être près des gens, moi, ça, tu vois, comme jeune, je trouve ça franchement inspirant. Puis, tu sais, moi, mettons, avoir un genre de gabardie, peu importe le parti, m'en sac, là, un peu partout au Québec, là, moi, j'aimerais ça en avoir un genre de gabardie dans ma circonscription.
Oui, il travaille en amont pour ce qui est de la santé. Il y a ses entreprises là-dedans. En plus, il est directeur exécutif du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Mm-hmm. Fait que ça va être une belle discussion avec Gabardie. Puis, ben, nous autres, bon, on va jaser un peu, si tu le veux bien. On regarde côté météo, c'est quoi? Sur Québec, actuellement, il y a quelques éclaircies à certains endroits, mais sinon,
vite,
c'est une masse nuageuse qui est au-dessus de notre tête. On va aller voir ce qui se passe pour les prochaines heures. On dit que ce serait un ciel dégagé cet après-midi, donc
ouais.
Ça devrait partir maximum de 7 degrés. Ce soir, dégagé, minimum de moins 5 degrés. Vendredi, alternance de soleil et nuages pendant qu'on est en congé, maximum de 11, minimum de 6 en soirée. Peut-être un peu de pluie vendredi soir. Samedi, de la pluie, maximum de 15. Et dimanche, ce serait des averses avec un maximum de 6. Et si je vais à plus long terme, lundi, parce qu'il y en a qui vont être en congé aussi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 11 degrés. S'il se passe quoi que ce soit, les amis, sur la route ou encore vous avez des choses à nous dire, ça se passe par texto au 418-971-1021.
Il y a un léger ralentissement si vous êtes sur Laurentienne, direction sud. Vous tentez d'aller chercher la capitale, direction ouest, dans la bretelle. Là. Un ralentissement à prévoir dans ce coin-là. Pour le reste, ça roule super bien jusqu'à maintenant. 418-971-1021, texto.
Mais ça va, ton ami Justin Bieber? Toi, mon Justin ami... Bieber, t'as-tu été...
Hey, c'est drôle, ça.
T'as-tu été une fan de Justin Bieber?
Justin Bieber, j'ai eu ma passe quand j'avais comme 10 ans, OK? Après ça, j'ai un peu abandonné quand il est devenu très, très pop et contrôlé. J'ai un peu décroché, mais moi, ma voisine trippait sur Justin Bieber. Je voulais que ma voisine m'aime, fait que je me suis mis à aimer Justin Bieber. J'ai eu ses premiers albums, là, avec toutes ces grosses tunes bien, bien connues du temps.
Tu vois, moi, dans ma tête, il avait toujours été hyper populaire. Moi, j'ai jamais vraiment trippé sur Justin Bieber. Parce que tu comprends que ça aurait paru
louche sa mère avait pas...
un peu là, de à l'âge que j'avais de triper sur Justin Bieber. Mais tu sais, forcé d'admettre qu'aujourd'hui, tout ce qui arrive, ça me rend triste énormément pour l'individu. Et puis on va vous raconter ce qui se passe dans sa vie. Mais moi, j'ai l'impression que ce gars-là a rencontré Sean Diddy Combs.
Oui.
Puis j'ai l'impression qu'il a peut-être été utilisé, sans trop rentrer dans les détails.
Ouais, ouais.
Ben il a peut-être été un peu utilisé. Et là, le fait que Sean Diddy Combs, ça revient un peu dans l'actualité avec tout ce qui se passe, ça y joue beaucoup dans la tête. Écoute, les photos qu'on voit de Justin Bieber dans les derniers jours, les dernières semaines, il est gris, il n'a pas de l'air à apprécier la vie. Au niveau de son couple, ben là, ça semble pas aller super bien non plus. J'ai l'impression qu'on va le perdre comme on a perdu Britney. Là.
Mais c'est pas la première fois. Tu sais, Justin Bieber fait partie de ces enfants stars-là. Il fait partie de la vague Selena Gomez, Miley Cyrus, Demi Lovato.
Britney?
Oui, aussi. Ben Britney est un peu plus vieille. Là. Elle est beaucoup
mais
plus vieille.
C'est un enfant star. Elle était pour Disney, Disneyland. Elle.
Absolument. Mais Justin Bieber, il faut savoir qu'à la base, c'est un jeune homme qui vient d'une famille quand même plus démunie, le plus pauvre, là. C'était la simplicité avec sa mère. Les premières vidéos qui sont apparues sur le net de Justin Bieber, il était sur le bord de la rue avec sa guitare. Personne ne le connaissait. Il est passé d'un nobody en dedans de quelques mois à être partout, littéralement, mondialement. Puis, tu sais, quand t'es jeune comme ça, tu le dis, quand t'es enfant star, ben t'es un peu contrôlé, là. Fais ça, ça va marcher. Agis comme ça, ça va marcher. Lui, on l'a casé directement dans le rôle du beau petit gars adolescent qui allait faire craquer les jeunes filles, là. Fait que, tu comprends, on jouait beaucoup, beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de choses, probablement, qu'il a fait à l'encontre de ce qu'il aurait réellement voulu faire. Sa musique, à un moment donné, elle lui appartenait plus. C'était plus sa musique plus que ce qu'on disait de faire pour que ça pogne. Fait que j'ai comme l'impression que comme toutes ces stars-là qui ont fait autant de télé que de musique à un certain point, là, on les a perdus. Tu sais, quand il est arrivé autour de 18 ans, Justin Bieber, là, Il y a eu un méchant down, Yannick, là. Et, je veux dire, c'était la drogue, c'était n'importe quoi, en fait, là. J'ai l'impression que quand il a rencontré Hailey Bieber, puis là, ils se sont mis bon, en couple, éventuellement le mariage, là, ils ont un nouveau bébé là, des derniers mois, ça allait mieux, mais c'est pas quelqu'un qui est stable. Tu peux pas être stable quand t'as cette vie-là, là. Tu sais, il est sorti, je sais pas combien de tunes les dernières années sur la solitude, là. Tu sais, c'est que t'es tellement entouré parce que t'es populaire, mais t'es tellement seul en même temps. Et fait que j'ai aucun doute qu'il va pas bien, là.
Oui, bien, tu sais, il a été découvert par un agent d'artiste sur YouTube. Je pense qu'il avait 13, 14, 15 ans dans ces eaux-là, puis il est devenu une méga star, comme tu le mentionnes. Mais, tu sais, avec le procès de Sean Combs, Didi.
Oui, Didi, là. Trafic sexuel et tout, en passant, si jamais vous le replacez pas.
J'ai l'impression que ça y joue dans la tête, puis il y a des révélations qui vont se faire peut-être pendant ce procès-là qui ne veut pas nécessairement que ça sorte. Là.
Ouais.
Fait que si tu as vécu ce genre de traumatisme-là dans ton enfance, puis là, tu t'aperçois que ça se peut que ce traumatisme-là dont tu pensais que tu t'en étais sorti, ça revienne. Ça peut pas... Tu sais, c'est de la psychologie à Saint-Saëns qu'on fait là.
Ah oui, oui, on ne sait pas ce qui se passe dans le fond.
Il n'y a vraiment pas de l'air à filer. Puis ce qu'on apprend, c'est qu'il sera endetté de plusieurs millions de dollars. Moi, je pensais que ce gars-là, ses jours étaient assurés. Là. Il pourrait arrêter de travailler, puis jusqu'à la fin de ses jours, il allait être extrêmement riche.
C'est parce qu'avec les revenus que ce gars-là fait, normalement, tu te doutes pas que l'argent peut être un problème. Il y en a sûrement plein d'autres, mais ça, c'est assez épatant.
Puis là, on parle de plusieurs millions de dollars. Sa tournée qui avait été annulée en 2022, il y avait eu des problèmes de santé, à ce qu'on nous dit. Ouais, je sais pas. T'sais, on y souhaite pas de mal, bien entendu, là, mais 31 ans, perdu comme pas possible.
Moi, ça me fait de la peine. Hein, t'sais, nouveau papa, me semble que c'est toutes des affaires qui devraient tellement être belles dans une vie. Puis j'ai l'impression que lui, effectivement, c'est un peu une âme perdue tout court. Puis j'ai l'impression que ça va être ça jusqu'à la fin de ses jours.
Oui, puis t'sais, malgré qu'il y en a qui sont capables de se reprendre, là, parce que je veux dire, on parle d'un talent qui est indéniable.
Oui, mais tu sais, quand ton talent t'appartient plus, Yann.
Oui, mais c'est quand même
une machine
sa
à
voix.
Cash.
Ouais,
mais ça. Oui, mais c'est que tu rentres plus en studio parce que tu aimes faire de la musique ou parce que tu es passionné ou parce que tu as une idée de chanson en tête. Tu rentres en studio avec souvent des tunes écrites, pas nécessairement par toi, des textes qui te sont proposés. Puis c'est comme, ah ouais, prochain album, prochaine tournée, prochaine de la merch, sors de la merch, sois présent sur tes réseaux sociaux. C'est une machine à cash. Tu deviens. C'est, tout ça est mécanique. Là. Lui, quand ils l'ont découvert à 12-13 ans, là, il était passionné. Lui, ce qu'il aimait, là, c'était... Puis il avait une sacrée belle voix. Puis là, je veux dire, on est à Boulevard, on parle de Justin Bieber. J'en entends dans leur char qui se disent probablement, voyons, Justin Bieber, j'écoute pas ça, j'en ai rien à foutre. Mais ce gars-là avait une voix exceptionnelle.
Ouais. Mais moi, c'est pas ça mon premier
réflexe.
C'est de voir que...
Mais ça fait partie
du essaie de comprendre ces gens-là. Mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie, mais on se dit, ouais, mais tu sais, quand on te vole un peu ta personnalité, qu'on t'encorde et tout ça. Puis moi, je pense à tous ceux qui essaient de faire leur job, qui ont de la misère à arriver à la fin de la semaine, puis qui se disent, hit, tabarouette. Moi, je peux-tu te dire que pour quelques millions de dollars, je ferais ce qu'on me dit de faire?
Ouais, mais Yann, ça, je pense que c'est un gros raccourci pour vrai, là.
Ben non, c'est la réalité.
Ben non, c'est facile de dire, ben oui, mais eux autres, ils ont de l'argent, ils sont bien, ils chialent les poches pleines. Mais là, c'est que c'est quétaine ce que je vais te dire, là, mais c'est pas la première fois qu'on en parle que l'argent, ça fait pas tout dans la vie, là. Puis il y en a. Il y a des documentaires là-dessus, là, des endroits dans le monde où le monde est pauvre, c'est
mais
pas possible, mais ils sont heureux.
Est-ce que
t'es
d'accord qu'il y a plus de chances de s'en sortir, lui, que le gars
pas mentalement, je suis pas d'accord.
Ben, le mentalement, on sait pas, là, mais tu sais que le gars qui, lui, à tous les jours, il essaie de gagner sa vie pour qu'à la fin de la semaine, il réussisse à payer son loyer... Tu sais, lui, là, il a pas...
Le gars qui a de la misère à arriver a un stress constant, on s'entend là-dessus. Par exemple, probablement qu'il est valeur à bonne place, il est entouré, il y a probablement de l'amour autour de lui, tu comprends? Il est... Mentalement, comme individu, tu dois être bien quand même jusqu'à un certain niveau. Mais moi, j'ai pitié de ces gens-là. Là, moi, demain matin, tu me dis, veux-tu échanger de vie avec une des grandes stars de ce monde? Là? Jamais dans 100 ans. Yann, ces gens-là sont isolés, sont seuls. Ils savent pas c'est qui leurs amis, leurs vrais amis, tu comprends? Lui, il a tellement été découvert jeune, il a pas d'entourage. Là. Lui, des amis du secondaire puis du cégep.
En fait,
là,
ce qu'on dit, c'est qu'il y a un entourage, mais à partir du moment où ses gestes sont remis en question par son entourage, il bannit son entourage.
Ouais, ben là, on n'est pas là non plus. Là. On spécule. Là. On jase depuis moi et on est gérant d'estrade. On est loin.
C'est ce que je te disais.
Mais non, mais tu sais, le point, c'est que peu importe, on parle de Justin Bieber, Yann, mais on s'entend-tu que peu importe la star qui a bien de l'argent,
ouais,
qui est tout le temps sa route, qui est en tournée, qui fait de la musique, tu comprends, mais qui. T'es pas bien, là. T'as-tu vu le documentaire de Avicii sur Netflix?
Si mon gars avait eu sa carrière et tout ça, je le prendrais par le cou et je dirais, viens avec moi, on va aller se promener un peu partout dans le monde, puis on va essayer d'aider, puis faire voir d'autres choses peut-être pour y trouver comme une autre raison de vivre. Puis après ça, ben, peut-être qu'il reviendrait à New York en disant, hey, avez-vous des tunes à me faire chanter? J'ai d'autres choses, j'ai d'autres projets à faire.
Ouais, c'est sûr, c'est certain que quand t'as pas de projet... Hein. Je pense que quand t'es dans la machine, t'as plus ça, justement. Puis peut-être qu'un moment donné, à l'âge qui est là, il pourrait prendre la décision. Passer 30 ans, il pourrait prendre la décision de se dire, je prends ma retraite, j'arrête tout.
Ou tu donnes un an, tu fais d'autres choses, puis tu reviens après. Il y en a qui sont capables de le faire.
Oui, il y en a, mais j'aimerais ça que, dans les grandes stars, j'aimerais ça que tu me les nommes, là, ceux qui sont capables de garder le beat de la machine à cash, puis d'être sain d'esprit, puis bien avec ce qu'ils font. Là. Parce que souvent, ça arrive vraiment sur le tard. Là. Quand t'es jeune, il est là ton prime là, pour être populaire. Là. Puis t'en as des artistes qui se sont enlevés la vie, entre autres, dans ces conditions-là. Je te parlais d'Avicii.
Ouais.
Si la thématique de la musique, justement, puis de la vie, puis de la solitude, puis de tout ce qu'on vous parle là vous intéresse, là, le documentaire Avicii, I'm Tim, sur Netflix, est franchement intéressant parce que Avicii, c'en est un gars. Tu sais, c'est qui Avicii, Anne?
Ben oui, le DJ.
Ben oui. C'est un gars, lui, qui, du jour au lendemain, est devenu populaire aussi. En dedans d'un an, il est passé littéralement de personne à le gars le plus populaire au niveau des DJ. Puis c'est ce qu'il explique dans le documentaire à un moment donné. Puis ça, c'est des bouts de documentaire qui ont été faits, puis des images qui ont été prises, puis ils ont terminé le documentaire sans lui, tu comprendras, là. Ouais, c'est plate d'une main, mais c'est ça pareil. Puis il explique ça qu'à un moment donné... Il n'y avait aucune idée, il était qui, qu'est-ce qu'il voulait. Et lui, tu comprends, il se levait le matin, là, fait ci, fait ça, enregistre ça, OK, là, on a ça à faire, telle entrevue, telle... Ça n'arrête jamais, tu n'as jamais de ouais. moment de paix, de solitude intérieure.
Je sais pas, peut-être que je suis trop groundé, là, mais j'ai de la misère à me mettre dans la tête de ces gens-là. Là. J'ai juste à passer à côté du...
Mais c'est parce que l'argent, c'est pas tout.
Ouais, je comprends, mais je passe des fois à côté de la bouchée généreuse, puis je vois comme les 200 personnes qui sont à l'extérieur, qui attendent de rentrer, ça me fait halluciner. Puis là, je vois eux autres qui ont tout pour être heureux dans la vie,
qui
sont hyper malheureux.
Ah, puis ton point est vraiment pas mauvais.
La chance d'être endetté de 25 millions de dollars, je me considérais comme chanceux.
Oui, mais c'était le goût de t'accrocher tous les jours.
Taper le 25 millions, mais à tous les jours, de ne pas savoir si tu vas être capable de nourrir tes propres enfants. À mes yeux, à moi, c'est peut-être moi qui n'est pas rationnel non plus, mais à mes yeux, je ne suis pas capable de nourrir mes enfants. Pas mal plus stressant que hey, je suis obligé de faire ce texte-là. Qu'est-ce qui va me rapporter 200 millions de dollars?
Mais je pense que tu diminues le quotidien de ces gens-là.
Pas du tout.
En passant, t'as pas tort, là.
La réalité, c'est que je vais faire un tour à côté de l'Aubrivière puis je vois des gens camper
dehors. On s'entend. Là, on est dans deux extrêmes, Yann. Là. Mais là, je te parle, mettons, de toi puis moi versus ces gens-là. Je suis pas sûre que ce monde-là est bon. Ils ont-tu l'argent? Oui. Sont-tu bien habillés? Ils ont-tu l'abondance? Absolument. Mais je sais pas à quel point cette abondance-là est tant positive au final. Okay. Moi, il est juste là, mon point. Là. Je parle pas de la famine.
Qu'est-ce qui leur empêche,
là.
Eux, de faire autre chose?
Mais je pense que tu sais pas, Yann, par où... Mets-toi juste dans la tête, 3 secondes, reviens, vois l'autre côté de la médaille. Là. Je pense que tu sais pas comment faire. À partir de 12 ans... Hey, 12 ans! À partir de 12 ans, tu perds le contrôle total de ta vie. Tu vas pas à l'école comme tout le monde. T'as pas un quotidien normal.
Comprends-tu ça? Mais qu'est-ce qui empêche de revirer ça demain, lui-là?
Ben, t'as pas de repère. Je veux dire...
Je sais pas. Peut-être que c'est moi qui a pas la tête à la bonne place, là, mais à mes yeux, à moi, il y a plus de chances, lui, de se refaire que quelqu'un que, lui, sa vie est au day-to-day, puis il sait pas trop s'il va être capable de payer son loyer à la fin du
mais
mois.
Mais s'il veut, t'as raison qu'il peut se payer des psys, il peut se payer toutes sortes d'affaires pour se remettre sur le chemin, on est d'accord, là.
Mais la misère, ça se compare pas. Là-dessus, je te rejoins.
Mais je pense qu'il est là,
mais
mon point.
Mais il y a plus d'opportunités de s'en sortir et de changer de vie que les personnes qui sont dans la, à mes yeux, à moi, la vraie misère.
Ouais,
mais ça se peut qu'on n'est pas obligé de voir les choses pareilles.
Ben non.
Hey, t'écoutes-tu des films d'action, toi?
Et tabarnouche, ton changement de sujet que tu me fais là.
T'écoutes-tu des films d'action?
T'es-tu tanné de t'ostiner?
Oui.
Voyons
t'écoutes-tu
donc.
Des films d'action?
Oui.
Oui?
Ben oui, quand mon chum veut en écouter. Là,
des
mais
braquages de bijouterie, ça t'excite-tu?
Ah ben j'ai toujours trouvé ça fascinant, pour être honnête.
Ouais.
Parce qu'il y a bien des bijouteries en plus qui ont des gardes du corps aujourd'hui.
T'as-tu déjà pensé en faire une?
Non.
Non?
Mais jamais passé par la tête, toi, Yann.
Je te dirais qu'avec le jeu là, qui est hyper populaire, GTA, tu peux faire ce genre de braquage-là, puis c'est franchement excitant. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à Los Angeles. Il y a des braqueurs qui se sont immiscés dans une bâtisse qui était visiblement inoccupée. Mais l'autre bâtisse qui était à côté, qui était collée sur la bâtisse qui était inoccupée, il y avait une bijouterie qui s'appelait Love Jewels, OK? Et ces gens-là, les propriétaires de Love Jewels, à chaque fois qu'ils faisaient une scène, ils réinvestissaient à l'intérieur de leur boutique, puis ils achetaient des bijoux, puis ils achetaient de l'or. Donc, toute leur petite fortune, au lieu d'être à la caisse là,
ou dans
à
la banque,
était directement dans la boutique. Et visiblement, ça, ça se savait auprès des cambrioleurs qui ont décidé d'aller voler dans cette bijouterie-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont creusé un trou pendant on ne sait pas trop combien de temps, mais certainement plusieurs jours, parce qu'il ne faisait aucun bruit. Mais quand tu creuses dans le béton, Audrey, là, ça fait du bruit. Mais si tu y vas lentement, puis tu grattes petit peu par petit peu, tu vas réussir à avancer millimètre par millimètre. Puis à un moment donné, ben, ils ont réussi à passer l'autre côté. Ils ont réussi à neutraliser le système d'alarme. Ils ont resté à l'intérieur de cette boutique-là, parce que les caméras les ont filmés, entre 5 et 6 heures dans l'établissement pour vider ça au grand complet de A jusqu'à Z. Il ne restait plus aucune richesse à l'intérieur de cette boutique-là. Combien ils ont volé, Audrey?
Combien?
Dans une bijouterie, mettons. Prends une petite bijouterie, c'est à Québec, là. Ils réussissent à voler combien?
T'as de la valeur là-dedans, là. C'est-tu en millions?
Tu peux y aller en millions, si tu veux. Je suis pas sûr qu'il y ait l'équivalent d'un million à Québec. Peut-être, genre, j'ai une boutique en tête, là, un gars que j'avais reçu dans Marceau ce soir, mais...
Mettons un million.
Toi, tu dis un million. 27 millions canadiens.
T'as manane. J'étais loin.
27 millions canadiens. Puis je suis pas trop sûr si tout ça, c'est assuré. Parce que quand tu gardes une fortune comme ça, il faut que ta compagnie d'assurance soit au courant de ça.
Ben oui, mais là, c'est ça. Il faut que tu fasses les choses dans l'ordre, là. Hey, un tunnel, faut que tu veuilles solidement, là.
Les flics ont jamais été avertis. C'est le lendemain, quand les employés sont arrivés, ils ont rentré dans la boutique, ils ont dit « Ah, oh, il y a des choses qui ont bougé. Ah, oh, il y a des choses qui ont disparu. Hey, il y a un tunnel qui donne dans l'immeuble de l'autre côté. » Ça arrive plus, ce genre d'histoire-là.
Hey, mais c'est une histoire de film, en fait, carrément, là.
Carrément, carrément. Puis tu sais, regarde la boutique, là. Tu sais, je pense que c'est elle, ouais, c'est ça. C'est elle qui est là. Je veux dire, tu peux-tu t'imaginer qu'il y a 20 millions de dollars là-dedans?
Ça a l'air de rien pour les auditeurs.
Ce que je pense, Audrey, c'est qu'il y a des gens qui étaient au courant du montant qu'il y avait à l'intérieur de cette boutique-là. Là. Surtout que le propriétaire dit, nous autres, on ne mettait rien à la caisse puis on remettait tout ça dans notre entreprise.
C'est des gens qui connaissent, hein?
J'ai déjà jasé avec plusieurs policiers à ce sujet-là. Là. Quand tu te fais voler chez toi... C'est un fort pourcentage, là. C'est des gens que tu connais.
Mais tu nous avais déjà raconté.
Dans mon cas, moi, c'est quelqu'un de ma famille éloignée.
C'est capoté, ça.
Puis il a profité du fait que la mère de mes enfants était à l'hôpital, que moi, j'étais à l'hôpital pour venir vider tous les outils qui étaient dans notre maison qu'on était en train de rénover. Avec mon beau-père.
Je serais viré folle.
Et mon beau-père s'est fait voler à peu près pour 5000 pièces d'outils.
C'est débile.
C'est pas grave.
Non, c'est pas grave. Ben,
on s'est revengé.
C'est tannant, comme on dit. Hein?
On s'est revengé. Les Cowboys fringants, tant qu'on aura de l'amour sur Boulevard, si vous avez des choses à nous dire d'ici là, parce que tantôt, on rejoint Gab Hardy, propriétaire du Tonic Gym et candidat dans Montmorency-Charlevoix pour le Parti conservateur du Canada. Si vous avez des choses à nous dire, ben, c'est le 418-971-1021. 10h44 minutes, on est en train de jaser pendant la pause avec Gab Hardy, qui est notre prochain invité. Qui est Gab Hardy? Ben, je pense qu'il n'est plus à présenter. C'est le propriétaire du Tonic Gym qu'on vous parle souvent. C'est le nouveau candidat dans Montmorency-Charlevoix pour le Parti conservateur du Canada. On va parler pour les prochaines minutes de la politique chez les jeunes. Comment ça fonctionne? Les jeunes, ils veulent quoi comme politicien? Puis Gab, ben, il nous a fait le plaisir d'être avec nous autres en studio. Fait que salut mon ami, très content de t'accueillir en studio avec nous autres.
Merci à vous autres de me recevoir aujourd'hui.
Je te l'ai dit au gym, là, mais t'es un petit sacripant, un petit joueur de tour. 95% des candidats de la ville de Québec, je savais c'était qui, je savais à qui était, qui allait être présenté. Puis toi, ton nom... Je suis assez ma mère, là. Toi, ton nom n'a jamais sorti.
Non, effectivement.
Ça m'a vraiment surpris, mais en même temps, je suis tellement content que tu amènes ce nouveau dynamisme-là en politique que je te félicite du pas que tu as décidé de faire en politique.
Bien, merci beaucoup. Puis écoute, ça a été une approche qui a été faite en octobre dernier par le parti, notamment dans une sortie que j'avais faite pour les jeunes, le sport, l'activité physique ici avec l'Académie Saint-Louis, que vous vous rappelez de l'histoire avec la musique, eux, ils n'avaient pas le droit d'en avoir pour ne pas déranger les voisins. Et le parti m'a approché parce qu'il aimait, bon, notamment l'historique, mais aussi, j'imagine, ma manière de parler dans le public et tout ça. Mais je leur avais demandé, premièrement, j'ai dit oui, ça me tente de me présenter. Mais vous le savez, je représente aussi l'ensemble de l'industrie au Canada. Fait que je ne pouvais pas être dans une position où est-ce que je m'affichais pour un parti alors que je devais quand même représenter l'ensemble de l'industrie de manière neutre.
Parce que tu es directeur exécutif du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique.
Oui, c'est ça. Puis tant et aussi longtemps que je n'avais pas un territoire de confirmer, je ne voulais pas m'avancer trop parce que, bon, il y avait une analyse à faire et tout ça. Et ce n'est qu'une semaine avant le début des élections qu'on m'a dit « Écoute, Gab, on a Montmorency-Charlevoix pour toi. On pense que c'est un territoire qui te ressemble. C'est du tourisme sportif beaucoup. C'est la nature, c'est la culture. C'est aussi le territoire de Brian Mulroney. Alors, c'est-tu un défi qui te tente? » Ben, j'ai dit oui. Effectivement, pour moi, ça va être un très beau défi. Puis je suis rendu là dans ma carrière là, d'aller un petit peu plus loin en politique, bon, puis d'amener mes idées plus loin.
Ça, c'est le bout que je comprends pas. Quand tu dis « je suis rendu là dans ma carrière », tu es un homme d'affaires, tu gagnes de l'argent, tes entreprises vont bien, tu t'occupes du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique, tu parles constamment dans les médias. Mmh,
ton message est clair.
Tu n'as pas besoin d'argent supplémentaire. Qu'est-ce que tu vas là? Ils vont te ramasser à Ottawa.
Ouais.
Pendant 4 ans, j'imagine que tu as dû jaser de ça avec ta femme un peu.
Oui, oui, c'est passé un peu croche. Je pense qu'on est là.
Oui?
Je pense que c'est important. Puis il y a tout le temps une phrase qui dit « si c'est pas moi, qui? » Puis « si c'est pas maintenant, quand? » Puis j'ai tout le temps, tu sais, dans la pandémie, ça a été une des premières choses que j'ai fait. Quand l'industrie a été fermée, j'ai pris la parole parce que je me disais, écoute, je suis capable de parler devant les médias. Je pense que je suis capable d'exprimer de manière positive un message qui est important. Donc, pour moi, c'était normal de prendre place puis de prendre position pour une valeur que j'ai. Un peu le même principe présentement, tu sais, la politique internationale bouge beaucoup.
Ouais.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cynisme par rapport à la politique. Les gens se disent, bah, peu importe qui va être là, ça ne changera rien.
Énormément, en fait.
Oui, vraiment. Puis on voit aux États-Unis, tu sais, vraiment un gros glissement aussi des libertés personnelles. Puis je pense qu'il ne faut pas attendre d'être devant le fait accompli. Il faut s'impliquer puis dire, OK, est-ce que j'avais la chance de le faire? Oui, parfait. J'ai avancé. Puis je trouve que c'est une valeur aussi à enseigner à nos enfants. S'assurer qu'ils sont capables de se dire, ben écoute, quand c'est le temps de me lever, je dois le faire, c'est pas aux autres de le faire à ma place. Puis c'est en faisant ça, tout le monde, qu'on est capable d'avoir un impact sur les décisions qui vont se prendre puis qui vont avoir un impact sur nos vies au retour. Alors, c'est ça. Pour moi, c'était le temps de m'impliquer un petit peu plus loin. J'ai la capacité de le faire. Comme tu le dis, tu sais, je gagne bien ma vie. Puis,
c'est parce que t'as pas besoin de politique dans ta vie pour être heureux, là. Tu sais, tu travailles extrêmement fort puis tes affaires vont bien. Là, je me dis, tabarouette, il va se ramasser du trouble pendant 4 ans.
Non, mais moi, j'admire ça parce que...
Ben, je suis content qu'il soit là parce que, je veux dire, c'est le meilleur représentant pour parler de santé physique et mentale.
Puis
tu as
un gars d'objectif, Gab. C'est quoi l'objectif avec tout ça? Parce que là, tu te lances en politique, mais tu vises quoi à long terme, mettons?
Ah, je veux devenir ministre du sport et de l'activité physique, sûr et certain. Ouais. Pour moi, c'est un message fondamental. Je crois qu'on... Puis c'est encore hier au débat, je voyais ça, on s'ostine sur le partage, mettons, du fédéral vers les provinces et tout ça, puis le partage en santé et tout et tout. Je trouve que les politiciens ne parlent jamais de prévention. On est tout le temps dans « ouais, mais on a besoin de plus d'argent », mais c'est, on le sait, là, c'est augmenter les taxes. À un moment donné, tu n'en inventes pas de l'argent ou tu en coupes. Puis là, on le sait que nous autres, avec le Parti conservateur, on est clair sur les coupures. À un moment donné, on a trop dépensé, on a bureaucratisé à fond. Je pense que c'est important d'avoir des manières novatrices puis d'amener une autre vision sur la santé que de tout le temps attendre de donner un médicament aux gens. Puis bon, en étant dans le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique, donc Fitness Industry Canada, on les voit les statistiques sur les taux de mortalité, on les voit les maladies chroniques qui s'élèvent de plus en plus, on la voit la sédentarité prendre place. T'sais, c'est un Canadien sur 3 qui est obèse présentement, qui mène à maladies cardiaques, maladies pulmonaires, qui mène à un cancer sur 2, un lien avec l'obésité. T'sais, notre système ne va pas bien, il faut qu'on bouge. Puis ça prend peut-être des gens un peu comme moi pour l'amener puis en parler.
Parce que tu parles tout le temps de travailler en amont constamment.
Ben oui,
travailler
ben oui, ben
en amont,
oui.
Travailler en amont. Fait que le message va passer si t'es en haut, j'imagine.
T'as-tu peur de devenir cynique toi aussi, Gab? Puis je m'explique là, à tous les paliers, puis on en parlait, moi puis Yann, pas plus tard qu'hier, je pense. Là. Chaque fois que quelqu'un se lance en politique avec beaucoup d'idées en tête, avec beaucoup d'optimisme, on dirait que c'est pas long que les portes se ferment puis que le cynisme embarque parce que finalement, c'est un peu plus compliqué que prévu.
Ah,
atteindre ses objectifs.
C'est sûr que ça va être difficile dans le sens que je suis un entrepreneur. T'sais, moi, dans la vie, ça va vite. Là. Quand on prend une décision dans une PME, en plus, là, les décisions se prennent très, très vite. Je m'attends à ce que ça soit un gros, gros bateau. Le gouvernement fédéral, surtout, là, c'est quand même un gros navire à utiliser. Mais je suis quand même un gars qui est persuasif. Je suis capable de parler avec les gens, de motiver des troupes et de m'assurer qu'on regarde tout dans le même sens. Fait que ça va être pour moi un défi. T'sais, tu disais que je suis un gars de défi. Je m'étais lancé l'objectif d'être un préparateur physique renommé. Je pense en préparation physique accompli des belles choses avec des athlètes de haut niveau, puis des gars de la NHL, des Coupes Stanley, Conn Smythe et compagnie. T'sais, ça fait partie de ma feuille de route, même si c'est pas moi qui les ai gagnés, mais j'ai fait partie de cette histoire-là. Mm-hmm. Ensuite de ça, je m'étais lancé l'objectif d'avoir un gym réputé, professionnel, reconnu. Je pense que ça, c'est pas mal accompli aussi, de représenter l'industrie. Puis là, ben là, je suis rendu l'étape plus loin. Tu sais, Yann, tu me disais souvent, ben quand est-ce que les politiciens vont comprendre? Ben là, si je vais l'être. Fait que je le comprends déjà. Fait que je vais être capable d'impacter les gens autour de moi, de convaincre les autres politiciens autour de moi de changer les politiques. Puis si je suis au pouvoir, si les conservateurs sont au pouvoir, tant mieux, parce qu'on va avoir les deux mains sur le volant. Puis dans le cas vraiment dommage qu'on serait à l'opposition, je serai en mesure de critiquer de manière très ouverte les politiques qui sont tout le temps en réaction puis qui demandent tout le temps plus d'argent, puis de challenger le gouvernement pour dire « Hey, il est plus que temps qu'on se réveille. » Alors, dans un cas comme dans l'autre, je pense que je vais être une voix pour la santé physique et mentale, puis ça, c'est rendu mon rôle.
Tu vas les pousser à s'améliorer. Donc, si tu n'es pas au pouvoir, tu vas être dans l'opposition. Si tu es dans l'opposition, tu vas les pousser à s'améliorer. Qu'est-ce qu'ils te disent, les gens sur le terrain, concernant la candidature de Gabardy, puis concernant le chef, Pierre Poilievre?
Ma candidature est bien reçue. Je pense qu'à chaque fois que je cogne une porte, là, qu'on soit, peu importe le parti, en fait, là, que ce soit le Bloc, les conservateurs, les libéraux, j'ai tout le temps des belles discussions, puis moi, je suis tout le temps ouvert. Hein. L'autre jour, j'étais avec un monsieur dans sa porte qui a commencé à dire « Moi, je suis un bloqué » en partant. Fait que je suis parti à rire, j'ai dit « Parfait, vous êtes sûrement plus conservateur que vous le pensez. » Puis finalement, on a parlé pendant une demi-heure, ça a été tellement une belle discussion, puis c'est ça. Je suis ouvert aux autres idées, puis à la fin, bien, c'est drôle parce qu'il m'a dit qu'il me garantissait pas de voter conservateur, mais qu'il était content de la discussion qu'on avait eu. Donc, ma candidature est bien reçue. Je crois être un gars très positif puis souriant. Fait que, tu sais, n'importe, ça va super bien. Je suis un petit peu connu aussi pour tout ce qui est sport et activité physique. Fait que j'ai déjà un certain capital de sympathie parce que les jeunes familles, ils savent, tu sais, que je suis là pour ça. Je suis là pour que les jeunes bougent. Je suis là pour
une certaine crédibilité.
C'est ça. Tu sais, ça, on l'a bâti au fil du temps. Pour ce qui est du chef Pierre Poilievre, je pense qu'il y a une réputation qui lui a été donnée dans les dernières années qui, avec raison, il était à l'opposition puis il faisait face à quelqu'un qui dépensait l'argent de manière assez intense puis peut-être même sans compter, qui a mis le pays dans une position vraiment précaire puis qui nous a rendu, je crois, t'sais, avec des finances complètement hors de contrôle là, dans le négatif. Donc cet aspect-là a été beaucoup le gars qui critique, le gars qui attaque, le gars qui est négatif. Alors là, on est dans une campagne, puis Pierre Poilievre doit devenir le premier ministre du Canada. Donc, la perception du chialeur est encore beaucoup dans la tête des gens. Par contre, c'est un gars ultra positif. C'est, moi, je l'ai rencontré souvent. Là, c'est un gars ultra positif. C'est un gars qui est agréable, qui a des bonnes idées. Il y a tellement des bonnes idées présentement que la plupart des partis s'entendent, ce qui rend l'élection un peu difficile parce que là, finalement, tout le monde regarde puis ils se disent... Le Parti libéral propose les mêmes choses que le Parti conservateur, mais...
Il y a beaucoup de monde mêlé, on va se le
dire. Oui, vraiment, vraiment. Parce que les partis, ça se ressemble beaucoup, puis tout le monde s'est recentré un peu sur les politiques que les conservateurs proposaient, qui étaient juste comme logiques. Il y a des différences, là. Mais là, on est vraiment sur c'est qui va être le meilleur premier ministre. Et oui, mettons, M. Carney a une longue historique économique, puis on le sait que ce côté-là est critiqué, parce qu'en Angleterre, ils ont dit que c'était un désastre de l'avoir eu au contrôle, parce qu'il a quasiment mis le pays dans le
exact.
Trou.
Exact. Et à la Banque du Canada aussi.
La Banque du Canada. Mais bon, tu sais, sur le CV, les gens se disent « Ah, mais c'est un économiste, il va sûrement être meilleur. » Il n'y a aucune histoire politique. Et ça, moi, ça me parle parce que, tu sais, au début, les gens riaient un peu en disant « Bien, Poilievre, tu n'as jamais eu de job dans ta vie. » Puis je suis comme, je m'excuse, là, mais mettre ta vie au complet pour les gens, être au Parlement, c'est une job excessivement importante. Moi, je suis du privé, puis je sors pour m'en aller au Parlement. Pourquoi? Parce que je veux mettre les gens avant mes intérêts personnels. Ça, pour moi, c'est une job importante. Alors, M. Poilievre, c'est ce qu'il a fait tout le temps. Il connaît la machine gouvernementale qui n'est pas facile à naviguer. Justement, c'est pas du privé. Alors, on a besoin de quelqu'un qui connaît la machine pour être capable de l'amener à la bonne place dans le contexte économique dans lequel on est. Et ça, je crois que c'est Pierre Poilievre qui peut le faire. le petit nouveau, qui n'arrête pas de dire qu'il est le petit nouveau, en disant « Ah, j'étais pas là, je viens d'arriver », on le sait que c'est pas vrai, mais ceci étant dit, ça va être très difficile même pour lui d'apprendre à naviguer dans cette machine-là. Donc, à quel point c'est beau de dire que tu vas aller négocier l'autre bord de la frontière, mais ça ne veut pas dire que tu vas savoir comment activer les mécanismes qui vont aider ton pays par la suite. Alors, pour moi, c'est Pierre Poilievre, avec ses politiques, qui va être le meilleur pour diriger le pays. Et j'espère faire partie de l'équipe en arrière là, pour supporter.
Ce qui est hallucinant, puis Pierre Poilievre lui a mentionné hier, c'est que c'est juste Justin Trudeau qui est parti. L'équipe de Justin Trudeau est toujours en place. C'est les mêmes personnes qui étaient là pendant 10 ans. Mm-hmm. Puis là, on change juste Justin Trudeau pour Mark Carney et c'est la nouvelle saveur du jour. Tu sais, tu parlais tantôt du rôle de l'opposition. C'est pas toujours évident d'être dans l'opposition.
Mais sais-tu, Yann, je vais te bloquer 2 secondes ici. Ouais. Personne ne pose la question à Mark Carney, si tu n'es pas premier ministre, est-ce que tu restes? Et la réponse, tout le monde la sait, parce qu'il dit en entrevue, il dit « moi, je suis là pour gérer la crise ». Sinon, il dit « je ne suis pas en politique aujourd'hui s'il n'y a pas de crise
ouais. ».
Alors, si tu n'es pas le premier ministre du Canada pour mettre ça sur ton CV, là, est-ce que tu restes? Tout le monde sait que la réponse, c'est qu'il ne sera pas à l'opposition pendant 4 ans, il va retourner au privé. Ce gars-là n'est pas là pour les Canadiens. Il est là pour son CV.
Mais le rôle de l'opposition, c'est de pousser le gouvernement à être meilleur pour le contribuable, pour les électeurs. Puis je pense que Pierre Poilievre l'a bien fait dans les dernières années. Puis là, ben, il va rester aux Canadiens de faire leur choix dans les prochains jours. Mais n'en demeure pas moins que quand on dit Pierre Poilievre est comme la personne qui critique constamment, mais c'est un peu la job
du
groupe d'opposition de le faire. Puis l'important, c'est que le gouvernement se dise « Attendez un peu, là, on a écouté les oppositions, puis il y a des trucs qui ont été amenés, on n'avait pas pensé à ça, puis on va s'ajuster. » Ou « Oups, on s'est fait prendre, on va se réajuster. » Ça sert à ça. Donc, de voir que certains Québécois que tu rencontres disent « Ouais, il y a de l'air un peu bête des fois et tout ça. » Ça fait partie du rôle du chef de l'opposition. Puis, tu sais, moi, si j'ai une critique à faire à l'égard de Pierre Poilievre, c'est de ne pas s'être fait autant voir qu'il aurait dû concernant la guerre avec le gros orange l'autre bord. J'aurais aimé qu'il soit plus visible pour dire à Donald Trump, écoutez, si vous voulez faire affaire avec les Canadiens, ben sous un gouvernement conservateur, voici ce qui va arriver. Il n'a pas sorti assez souvent. Peut-être que c'est la couverture journalistique, Gab, mais moi, c'est le seul reproche que j'aurais à faire à Pierre Poilievre. C'est j'aurais aimé qu'il se distancie de cette façon avec Donald Trump parce que les gens l'appellent le petit Donald Trump, Trump ouais. Alors que ça n'a rien, mais rien
à voir. Puis nos politiques sont claires là-dessus. T'sais, jamais on va devenir le 51e État, puis jamais on veut même accepter ce qui se passe présentement. Ceci étant dit, de commencer, puis toutes les autres parties l'ont fait, à analyser jour après jour les impacts de Donald Trump, alors qu'il change d'idée à chaque jour, c'est de sortir complètement des intérêts des Canadiens, puis de se dire, bien, comment on peut... Là, on le sait, là, on est rendu avec un partenaire américain qui était un ami de longue date, qui était un membre de la famille, hein, finalement, qui maintenant, on ne peut plus avoir confiance. Bien là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on doit se concentrer sur comment nous, on peut aller de l'avant avec nos ressources, avec nos autres contacts, diversifier et compagnie. On doit se concentrer sur nous parce que l'autre côté de la frontière, une journée, il dit une affaire, le lendemain, il dit le contraire. On est les meilleurs amis, le lendemain, on est les pires ennemis. Alors, si tu commences à tout le temps baser justement ta campagne qui dure 35 jours sur les réactions américaines, c'est quoi que tu vas proposer aux Canadiens, finalement? Tu fais campagne juste pour M. Trump?
Oui, mais avant les élections, il aurait pu le faire aussi. Là. Il aurait pu dire à Donald Trump, ou en fait aux Canadiens, en fait, quand Donald Trump va faire affaire avec un gouvernement conservateur, voici ce à quoi il va avoir de l'air à faire. J'ai l'impression qu'il a comme resté dans l'ombre en
mais
disant...
Mais c'est pas fait rassurant, en
nous,
fait,
nous, on
les
est
gens.
Du côté de l'opposition, on va laisser Justin Trudeau gérer ça pendant le temps qu'il est encore dans place. J'ai l'impression que ça a été une mauvaise stratégie au départ, ce qui fait en sorte qu'il y en a qui l'ont associé. Puis c'est surtout des éditorialistes au Québec là, qui l'ont associé à Donald Trump, alors que ça n'a absolument rien à voir.
Mais tant qu'on parle de politique en général, on a parlé tantôt qu'on avait un grand cynisme au Québec, c'est surtout ce qui était la politique. Est-ce que tu penses que c'est une tendance qui est réversible?
Ah oui, vraiment. Je pense que les jeunes réalisent de plus en plus à quel point ils n'ont pas accès à ce que leurs parents ont eu accès, puis à leurs grands-parents. Tu sais, avant, là, tu pouvais, puis mon père est le meilleur exemple, je veux dire, il a pas son secondaire 5, puis il a travaillé toute sa vie, mais j'ai été capable d'aller à l'école privée, on a eu une maison et tout ça. Aujourd'hui, les jeunes, ils regardent ça, puis ils se disent, crime, la maison est rendue à 600, 700 000 pour m'acheter une maison. les salaires n'ont pas suivi du tout. Donc, je pense que les jeunes commencent à se dire, OK, là, on vit dans une ère où est-ce que les taxes, les impôts, ça va nous rentrer dedans. Les taux d'intérêt sont très, très hauts. Instabilité, justement, au niveau de l'économie internationale puis des politiques internationales.
Je pense que c'est des choses qui font en sorte que les jeunes vont s'attarder un peu plus
à la
politique.
Moi, j'ai plus de questions de jeunes. Tu sais, les jeunes viennent me voir, puis tu sais, aussi d'avoir peut-être un gars comme moi qui s'implique puis qui vulgarise un peu le monde politique, parce que des fois, ça encore, je pense que c'est une erreur de M. Carney, mais quand il parle, on comprend rien des réponses qu'il donne. C'est trop technocratique. T'es comme, mais là, tu t'en vas où? Tu me parles d'un fichier Excel, là, je comprends pas de quoi tu me parles. Je pense que c'est important de vulgariser la politique, d'expliquer la machine, comment ça fonctionne, c'est quoi tes droits, comment t'es capable d'influencer. Et ça, je crois que les jeunes commencent à réaliser à quel point, OK, mais moi, j'ai une opinion, puis j'aimerais ça qu'elle soit considérée dans l'équation. Alors, c'est pour ça que je crois que les jeunes sont de plus en plus intéressés à ce qui se passe. On voit aussi les podcasts. T'sais, les podcasts, là, de plus en plus de podcasts vont parler, puis les jeunes sont beaucoup sur les podcasts, vont parler de politique, vont parler d'économie, vont parler aussi de l'opinion par rapport à la politique. Des fois, tu es plus ou moins intéressé, mais tu commences à en entendre parler. J'ai un jeune de 18 ans qui m'a appelé cette semaine. Il disait, Gab, je peux pas te parler, là, je retourne à l'école, je suis en secondaire 5. Je dis, OK, parfait. Et je peux te rappeler à soir? Ben, aucun problème. Puis on a jasé pendant une demi-heure de politique, puis il était comme, waouh, je savais pas que ça, moi, je peux aller voter, mais je ne savais pas que ça existait. Alors, je pense que nos jeunes vont être conscientisés beaucoup plus par rapport à la politique. Je pense qu'ils doivent réaliser à quel point ils peuvent avoir un bel impact sur la politique puis relancer leur message d'une génération qui se dit « Waouh, moi, ça va être tough pour moi. Là, je vais être obligé d'avoir deux jobs si je veux arriver ou je vais être obligé d'avoir une job excessivement payante pour être capable de juste avoir une maison puis permettre à mes enfants de faire du sport. »
Ça passe par où pour les rejoindre? Les réseaux sociaux?
Les réseaux sociaux, beaucoup. Tu sais, le porte-à-porte, on ne se cachera pas. Moi, j'en fais là, du porte-à-porte, mais mon territoire part de Lac-Beauport puis il s'en va jusqu'à Baie-Sainte-Catherine avant Tadoussac. Là. Fait qu'on s'entend que j'aurais pas cogné à toutes les portes. Là, je garantis à tout le monde
bonne chance,
que j'ai pas cogné à toutes les portes. Mais les réseaux sociaux, l'autre chose, tu sais, j'étais à Sainte-Brigitte-de-Laval récemment. Puis la dame, tu sais, j'arrive, il est 5h30, 6h, bien, il y a deux enfants qui sont à la table. Ouais. Elle n'a pas le temps de me parler, là, tu sais, elle est d'un souper. Le moment peut-être qu'elle va avoir pour relaxer le soir puis être devant son téléphone à se renseigner sur des trucs, ça va peut-être être à 9h, 9h30, les enfants sont couchés, tout est fait, bon, OK, ah, oh, là, je relaxe. Les réseaux sociaux, ça sert à ça. Je suis capable d'être en contact avec toi au moment où est-ce que toi, tu es disponible. Alors, les réseaux sociaux, c'est un gros, gros impact.
T'as-tu l'impression que ça peut créer une chambre d'écho, les réseaux sociaux?
C'est certainement une chambre d'écho, les réseaux sociaux, parce que tu vas tout le temps te pousser.
Les
algorithmes sont faits pour ça.
Mais tu sais, je m'explique, peu importe tes idéaux, là, c'est ce que je me dis, quand t'as 18 ans, puis je veux dire, tu viens de sortir ou t'es encore un peu dans ton adolescence, ish, là, et, tu consultes, mettons, peu importe le parti, là, que ce soit les libéraux, les conservateurs, tu consultes, mettons, beaucoup de contenu conservateur, bien, c'est ce qu'on va te présenter, c'est ce qu'on va te pousser probablement. C'est ce que l'algorithme fait. Là. Penses-tu que c'est bon ou c'est mauvais?
Ben, j'imagine que ça dépend qui t'écoute. T'sais, moi, j'essaie de rester le plus, malgré le fait que je me présente pour le Parti conservateur, je suis quand même un gars très logique par rapport à ce qui se passe puis par rapport aux élections en général. Je le sais que les autres partis, c'est pas tous des gens mauvais. Je le sais que
t'es
toutes les...
T'es capable de critiquer par rapport à ton parti aussi?
Par rapport à mon propre parti, dire on a des plus, on a des moins, on s'améliore, tout le monde, là, on est en adaptation, puis toutes les parties vont évoluer, on le voit, je veux dire, les politiques libérales des 10 dernières années, mais Mark Carney, il essaie de ramener ça au centre, finalement, en amenant nos politiques à nous, là. Alors, tu sais, tu dis les partis évoluent, ça, je le comprends, puis prenez vos décisions en fonction de vos valeurs, tu sais, mais renseignez-vous. Alors, au moins, au début, tu as commencé à entendre parler de politique, peut-être avec quelqu'un comme moi, tu sais, qui essaie de vulgariser le monde politique, amener ses idées. Mais après ça, s'il te plaît, renseigne-toi, va voir les autres plateformes, compare-les. Puis après
c'est
ça,
souvent
écoute...
ça le problème, c'est que les gens s'arrêtent à ce qu'ils vont voir sur les réseaux sociaux, ce qu'ils vont entendre, ce qu'ils vont capter à télé, l'opinion des autres. C'est rare que les gens prennent vraiment le temps d'aller consulter les plateformes.
Puis à l'inverse, tu sais, votez pas, s'il vous plaît, parce que vous votez comme ça depuis 20 ans. C'est plus, t'sais, on n'est plus il y a 20 ans. Alors, j'ai tellement de personnes à qui je cogne à la porte qui me disent « Écoute, moi, ça fait 20 ans, je vote bloc. Parfait, on va jaser. Pourquoi? C'est quoi, tu sais, je veux dire, le Parti conservateur est pour la défense du français et pour la reconnaissance de la nation québécoise. Là, j'entends en discussion avec un bloquiste. Ah ouais, j'ai pas vu ça de même. Ah, puis je crois plus vraiment, finalement, à l'indépendance du Québec. Donc, t'es plus conservateur que tu le pensais, tu comprends? Mais ça... Parlons-nous.
Mais il y a une couple d'électrons libres, je sens, en ce moment. En tout cas, moi, personnellement, autour de moi, il y a une couple de personnes qui sont un peu mêlées, puis je lève la main, en toute honnêteté. Moi, je fais partie des gens, en ce moment, là, qui sait plus trop, là. Mm-hmm. Tu sais, qui est très à l'écoute, qui est très je sais plus trop.
Mais allez lire les programmes.
Il faut vraiment.
Ça va être un petit peu plus dur pour ce qui est de Carney, parce que le programme économique, hein, c'est pas encore mis en place. Mais
Yann,
ça va être
ton
fait
jupon
les...
dépense, c'est épouvantable.
Dans les prochains jours. Non, mais si tu veux savoir où le Canada s'en va, puis là, lui, en matière économique, le gars, c'est une sommité, mais il n'y a rien d'écrit encore. Mais allez sur la boussole électorale, savoir où est-ce que vous êtes situé sur l'échiquier, là. C'est quoi vos valeurs? Ben, allez sur
un bon outil
le parti
là
qui correspond le plus à vos valeurs.
Sinon, tu sais, allez sur, je veux dire, c'est pas compliqué, là. Allez sur ChatGPT, mettez toutes les plateformes,
ouais,
parce qu'ils analysent de manière très rapide, et posez des questions à ChatGPT.
Exact.
Il va vous répondre, mais tel parti fait ça versus.
Tu
sais, ChatGPT, c'est aussi un bel outil en politique. Tu mets toutes les plateformes dedans, tu dis, toi, tu penses ça, quel parti me ressemble plus, ou selon toi, quel est le meilleur parti qui propose une plateforme économique? ChatGPT va au moins te fider, là. Après ça, tu vas comparer à d'autres choses, puis hop, là, tu es capable d'avoir une idée un peu plus, le parti qui te ressemble plus.
Il y a plein d'outils qui peuvent vous aider à faire votre choix, puis tu sais, je regardais tantôt dans ta circonscription où tu te présentes, là, je suis un peu déçu, il te reste seulement 6% des gens à convaincre, parce que tu es à 94% des chances de passer.
Ouais.
Fait que je vais te dire, comme à mon gars, il y a 6% qu'il faut que tu ailles chercher quelque part.
Écoute, je travaille jusqu'à la fin. Il reste 10 jours d'élection. Je suis sur le terrain, puis crois-moi, je prends rien pour acquis.
Ouais.
Alors, yes, on est à fond, Léon, jusqu'à la fin.
On parlait tantôt que tu aimerais devenir ministre du sport et du conditionnement physique. Bon, pour ce qui est de la Ville de Québec, je le sais, moi, c'est quoi son champ d'expertise à Québec pour ce qui est du sport et de la condition physique. Même affaire pour ce qui est du provincial. Ministre de l'Éducation a un impact là-dessus. Ministre des Sports a un impact. Pour ce qui est du ministre fédéral, il peut faire quoi concrètement dans mon quotidien?
Dans ton quotidien, pas grand-chose, parce que le sport et l'activité physique, c'est une compétence qui est provinciale. Ceci étant dit, le gouvernement fédéral a un rôle de leadership et un rôle de guide. Moi, je pense que si les politiques fédérales sont claires en matière d'activité physique, parce que là, le gouvernement, le ministère, excuse-moi, s'appelle sport et activité physique. Là, c'est plus large que juste le sport. On parle pas juste de Hockey Canada, là. On parle de sport et activité physique. Donc, à partir du moment où tu rentres activité physique, c'est n'importe quelle personne qui se tient active dans sa vie. C'est à toi de dire les grandes lignes générales. Alors, moi, je pense que si on fait un temps d'arrêt au niveau fédéral, qu'on regarde c'est quoi nos grandes politiques, est-ce qu'on est juste axé sur la performance? Est-ce que notre développement à long terme tient compte que c'est pas tout le monde qui va finir dans Team Canada, mais que je dois garder mes jeunes actifs pour pas qu'ils décrochent avant l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, que le modèle multisport est un modèle important. On peut-tu développer une manière de garder notre monde plus actif et des grandes directives qui vont influencer par la suite les autres provinces? D'avoir des gars, tu sais, je donne l'exemple parce que je suis en discussion avec Pierre Lavoie. Pierre Lavoie est apolitique, hein, je veux dire, Pierre Lavoie ne veut pas prendre parti pour personne. Ceci étant dit, il est capable d'influencer. Moi, quand je jase avec lui, je dis « Pierre, si je suis élu, je t'amène à Ottawa et on va aller shaker à baraque, parce que là, ça va être le temps qu'on dise au pays, est-ce qu'on peut faire un temps de pause puis regarder puis devenir un leader international en matière de prévention? Pourquoi on regarde tout le temps les autres pays, la Norvège, la Suède, la Finlande, comme étant des modèles? Pourquoi on n'est pas capable, nous autres, d'influencer les Canadiens avec un programme qui vient du Québec? On peut-tu être un leader international de santé?
Qu'est-ce que tu as en tête, Gab?
Moi, je veux vraiment qu'on change, premièrement, tout ce qui va être message sur l'activité physique. C'est un médicament puissant. Il faut arrêter d'attendre que les maladies chroniques gagnent du terrain. On le sait, toutes les maladies présentement, tous les programmes de toutes les associations parlent d'activité physique, mais on n'en entend parler jamais. Alors, la publicité sur l'importance de bouger puis sur l'impact sur les maladies chroniques est vraiment importante. Ensuite de ça, dans chacun des départements, exemple Sport Canada, là, tu t'en vas dans toutes les associations, on devrait avoir vraiment le plaisir en fondation. Pas juste de faire l'élite. Je comprends là, qu'on ne peut pas mettre le débutant avec la personne que ça fait 10 ans qui fait du sport. Personne ne va avoir du plaisir, là, ni un ni l'autre. Par contre, on doit garder nos jeunes actifs le plus longtemps possible et le moins de spécialisation hâtive possible. Et ça passe par de l'enseignement de haut en bas pour dire aux gens dans toutes les organisations, gardez vos jeunes actifs. On doit faire en sorte que tu puisses faire 2 à 3 sports dans l'année puis que ça ne soit pas 3 sports à temps plein, que les sports soient un après l'autre. Donc, un petit peu aussi forcer les associations, éventuellement, si tu pars avec une directive fédérale puis que tu proposes, mais que je crois qu'un jour, ça serait de dire, écoutez, vous ne pouvez pas faire du hockey 12 mois par année.
Puis pour monsieur, madame, tout le monde, tu sais, puis on a déjà jasé ensemble en même temps, fait que je sais un peu où ta réponse risque d'aller, là. Mais tu sais, moi, souvent, ce que j'entends autour de moi, puis Anne, je sais pas toi, là, mais quand on parle, mettons, de se remettre en forme, mm-hmm. d'aller au gym, d'être suivi, peu importe, ouais. là, que ce soit avec un coach dans un gym ou que ce soit en physio, tu sais, il y a des gens qui ont pas d'argent pour ça, qui se disent c'est bien trop cher, je suis pas capable d'investir dans ma santé, puis j'arrive pas au bout de la semaine, j'ai de la misère avec mon logement, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut peut-être aller faire pour inciter les gens ou faciliter peut-être l'accès aux gens?
Tu es en train de parler de la droite économique.
La droite économique.
J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. On va
Moi, je suis ouverte en ce moment.
Crédit d'impôt fédéral.
La ligne, ouais. la ligne 33099 du rapport d'impôt fédéral.
J'inscris mes go au hockey, j'inscris mes go au soccer, j'inscris ouais. mes filles au patinage ouais. artistique, au soccer.
Moi, j'ai un coach dans un gym. Ça je prends soin de ma santé.
Ça me coûte une petite fortune, mais au moins, je me tiens loin de l'hôpital. Je vais-tu pouvoir avoir quelque chose?
Moi, je veux encourager. Puis ça, c'est très, très, très conservateur si vous écoutez un peu nos plateformes. Mais moi, je veux encourager l'effort puis le récompenser. C'est-à-dire que si tu fais des efforts pour faire en sorte que tu tiens loin des hôpitaux, il faut que tu aies un retour pour te dire hey, merci de faire ton effort. Alors, plusieurs choses. La ligne 33099 du rapport d'impôt fédéral dit que la dépense médicale de l'activité physique, tu es allé dans un gym, ramène-moi ta facture, on va te la rembourser. T'es allé avec un entraîneur, t'as inscrit tes... Ramène-moi ça, c'est une dépense médicale. T'es en train présentement de sauver le système de santé. Un dollar investi, exact. C'est en minimum 3 à 20 $ de retour sur investissement. Ça, pour moi, là, c'est d'encourager de manière concrète les Canadiens et Canadiennes à dire « Hey, merci de prendre soin de ta santé. »
La bière d'Arena pour encourager mon gars, ça, c'est...
C'est pas encore considéré comme une dépense médicale.
C'est la bière, Yann, l'alcool, sois logique.
Mais c'est pour encourager mon gars qui, lui, joue au hockey. Un gars, ça saigne.
Il y a toutes sortes de manières, honnêtement, de supporter l'activité physique puis d'encourager ouais. les gens à bouger. Tu sais, on parlait encore... Là,
fait que ce serait le genre de choses pour lesquelles tu pousserais. Là.
Oui, vraiment. Tu sais, est-ce que tous les Canadiens peuvent avoir accès à un médecin de famille? La réponse, c'est non, il n'y a pas assez de médecins. Par contre, pourquoi on n'aurait pas des kinésiologues, des nutritionnistes, des spécialistes de santé préventive qui, eux, pourraient faire un scan? Hey, je donnais à Martin Dallaire.
Ils peuvent éduquer aussi.
Ils peuvent éduquer. Martin Dallaire, dans le corridor, tantôt, on parlait. Checkez bien la statistique. Là. Ça, c'est une statistique très, très, très récente. Okay? Si vous fumez, vous avez 50 % plus de chances de mourir de manière prématurée. Okay? Ça, c'est si vous fumez. Si vous êtes faible physiquement, vous avez 250 % plus de chances de mourir de manière prématurée. Et si votre VO2 max est dans le bottom tiers, mettons, le plus bas tiers...
VO2 max, mettons, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi?
C'est ta capacité cardiovasculaire. Donc, c'est-à-dire de faire un effort intense puis d'être capable de transmettre l'oxygène à tes muscles puis par tes poumons, par ton cœur, dans un effort maximal. Ça, c'est un test qu'on va faire. Hein. On va te donner ta VO2 max. Puis ensuite de ça, par rapport à ce test-là, tu vas être capable de te situer dans la fourchette, finalement, tiers plus bas, milieu ou tiers plus haut. Mm-hmm. Si tu es dans le tiers plus bas d'un test de VO2 max, dans le tiers plus bas, tu as 400 % plus de chances de mourir de manière prématurée. La VO2 max puis la force sont les indicateurs les plus précis de ta longévité. Et il n'y a pas un médecin au Canada, ou à peu près, qui le mesure. On va aller prendre ta pression artérielle, puis on va te demander si ton IMC, si ton poids est correct. Il n'y a à peu près aucun médecin qui prend ton tour de taille alors qu'il y a un lien direct avec les maladies cardiaques. Personne ne prend ta force de préhension et personne ne teste ta VO2 max. Pourquoi on n'a pas des cliniques qui disent aux Canadiens, écoutez, va te faire tester une fois par année. Préhension, ça prend 5 minutes. VO2 max, puis on prend ton tour de taille. On est capable de savoir de manière préventive est-ce que tu es présentement en train de t'enligner vers devenir un poids pour le système de santé, puis si tu es en train de t'enligner vers des maladies chroniques, c'est un calcul qui est simple, mais on a besoin de mettre des kinésiologues puis mettre des entraîneurs au cœur de la solution. Pas attendre que, ah non, viens me revoir quand tu seras obèse puis quand tu auras développé un diabète, là on va te traiter à coup de médicaments. Il est trop tard. Tu es déjà rendu que tu as coûté cher au système de santé.
Gabriel Hardy, tu m'impressionnes beaucoup. Je te le dis souvent, t'en fais beaucoup. Tu es un homme d'affaires, tu réussis bien dans la vie, puis là tu te dis, non, moi je m'en vais en politique, puis tu as des valeurs fondamentales qui m'intéressent.
Garde ton
beaucoup.
Optimisme, ton ouais, ambition, s'il te
plaît. Oui, je vais garder ça.
Tu y vas surtout pour les bonnes raisons. Moi, je veux juste savoir, tes enfants, ils t'appellent encore papa.
Oui, oui.
C'est pas le laitier qui qui t'a remplacé.
Non, je suis là tous les matins, je vais l'emmener à l'école, tous les soirs, je suis là. Puis, tu sais, vous avez raison, ça va être un défi familial aussi. Tu sais, il faut que tu sois à Ottawa 3 jours par semaine.
Mais je te félicite pour ce que tu mets en place. Puis, je te souhaite la meilleure des chances pour ce qui est des élections. Mais en même temps, je regarde du côté de Montmorency-Charlevoix, ça semble bien aller si on en croit les sondages.
Je vais venir vous voir le lendemain de l'élection, s'il faut, venez vous jaser ça.
Bon, génial. Ben, c'est booké.
On s'organise, assurément. On va parler de santé aussi.
Gabriel Hardy, candidat conservateur Montmorency-Charlevoix, c'est un plaisir. Bye-bye.
Merci.
11h22 minutes. C'est comme ça que ça se termine, ma belle Audrey.
Ben oui.
Tu vas être obligé de me retrouver ce soir parce qu'on fait une émission spéciale. Ça s'est jamais fait sur les ondes de boulevard.
C'est nouveau. On crée quelque chose de complètement nouveau.
Exact. On ouvre la Switch à 19h. Puis on ne sait pas trop quand est-ce que ça va se terminer. On m'a dit, est-ce que tu veux de la musique ce soir? Je lui ai dit non. On ouvre à 19h.
On va faire un long podcast.
Puis on jase. Ça va être un podcast de quoi? 19h, 20h, 21h, 22h, 23h. Fait que là... Okay.
Au moins 5 heures. On verra ce qu'il nous reste.
Si on finit à 2h du matin, ça va être 7h. Ouais. Moi, je fais 5 heures de radio, ça va être 12 heures de radio une journée.
Oui, on est en même place, en fait. Là, on va vivre ça ensemble. J'ai amené un pyjama.
Ce soir, ce qui est impressionnant, c'est que pour une des premières fois, on aura le même salaire.
Oui. C'est-à-dire...
Zéro!
Mais non, mais on voulait vraiment le faire. Puis on va prendre une bière avec vous autres. On va être en live sur TikTok, sur c'est Twitch. Ça. Plein de monde va venir se joindre à la conversation. On va jouer à des jeux. On a des cadeaux pour vous en passant. Tu sais, saluer Sobab qui embarque dans le game. Chaloux aussi qui va vous offrir des trucs. Fait que non, ça va être une sacrée belle soirée. J'ai amené mon pyjama.
On a des collaborateurs. Qu'est-ce qu'on fête ce soir? C'est ben là, il n'est pas encore arrivé. D'habitude, je fais ce genre de joke-là quand elle arrive, mais c'est le congé sans Pascal. Congé Pascal. Congé Pascal qu'on va fêter. Fait que venez fêter avec nous autres de 19h jusqu'à minuit, 1h, 2h. On va être sur Twitch, on va être sur TikTok, on va être sur les ondes RTL.
Oui, puis on
va être sur les internets, sur vos applications.
Absolument. On veut vous jaser en passant. Ouais. Notez le 780-101, c'est le numéro de téléphone, parce que vous devrez nous appeler ce soir. Les lignes sont à vous.
Exactement, monsieur, madame. Je te laisse là-dessus, je te laisse partir. Hey, on t'écoute à 14h avec Denis, puis on se retrouve. J'aurai pas le temps.
Essaye de faire une sieste.
Je finis de travailler à 19h ce soir, puis à 19h01, voilà. Je recommence.
Oh, Seigneur!
Je pense toujours à ceux qui m'aiment pas.
Oui, imagine, hein? Ça sera pas votre journée, la gang!
Salut!
Bye!
Pascal s'en vient.